Ce balado vous est présenté par interbible.org, le portail biblique francophone. Ici Sébastien Daune. Bienvenue à cette émission des Récits insolites de la Bible. Les habitués le savent, l'objectif qu'on se donne, c'est de regarder la Bible autrement, en partant de ses récits les plus insolites. Certains textes étudiés sont bizarres, oui, mais c'est toujours intéressant, ça nous permet un contact différent avec les Écritures saintes. Si je vous dis qu'aujourd'hui, on parle de Jonas, vous risquez de penser tout de suite à son naufrage, à son séjour dans le ventre de la baleine et même peut-être à une petite chanson que je ne chanterai pas en onde. Mais oui, on va parler de ça, mais on va surtout regarder la suite de ce récit-là. On va voir que Jonas est un prophète qui a des idées suicidaires à plusieurs reprises. On va se demander qu'est-ce que Dieu va faire pour sortir Jonas de sa crise et on va voir si ça peut nous inspirer nous autres aussi aujourd'hui quand on connaît quelqu'un qui a ces pensées suicidaires-là. Alors, je vous souhaite une bonne émission. Pour commencer notre bloc interactif, je veux répondre à José qui a réagi par rapport à l'émission de la semaine dernière. On parlait alors d'une recette de pain qui était donnée par Dieu à Ézéchiel. José voudrait essayer ce pain et ses céréales qui sont disponibles dans nos épiceries. Elle savait pas c'était quoi le nom de la compagnie. Alors, c'est tout simplement Food for Life. Alors, en anglais, c'est Food for Life. En français, l'équivalent, ça pourrait être la nourriture pour la vie, mais c'est en anglais Food for Life. Leur site web, www.foodforlife.com. Vous pourrez le reconnaître assez facilement. Il y a toujours le verset Ézéchiel 4:9 qui est mis en évidence sur leurs produits. C'est assez rare d'avoir un produit en épicerie qui porte un verset biblique. Je pense que ça vaut la peine d'essayer ça. D'autre part, je voulais prendre le temps de vous parler de quelque chose, parce qu'on va parler de Jonas aujourd'hui. Je voulais vous présenter deux livres québécois qui viennent juste de sortir sur le sujet. Alors d'abord, il y a un premier petit livre de René Mailloux qui vient de sortir, moi je l'ai eu cette semaine. René Mailloux, c'est un frère missionnaire qui écrit chez Médiapol. Le livre s'appelle « Missionnaire malgré lui, une lecture du livre de Jonas ». Les deux qualités principales que je donnerais à ce livre-là, c'est que, d'une part, il est très simple à lire, très simple à comprendre, et qu'il pose d'excellentes questions à notre Église catholique québécoise à partir de sa lecture du livre de Jonas. Alors, l'accent est mis sur le salut universel de Dieu. On va le voir tout à l'heure, dans le livre de Jonas, Dieu s'occupe pas seulement du peuple juif, mais il veut sauver la ville païenne de Ninive, une ville qui est en dehors d'Israël. Alors, ce qui est intéressant, c'est que René Mailloux met l'accent sur ça. Je vais vous lire une question qu'il porte, un court extrait de son livre. On va parler tout à l'heure de Jonas qui va demander à mourir. Eh bien, René Mailloux nous demande, en parlant de notre Église, « Ne sommes-nous pas comme Jonas qui préférait la mort plutôt que d'accepter Dieu et sa nouvelle façon de voir les choses? » Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il nous propose le livre de Jonas comme pour nous aider à relire notre expérience d'Église d'aujourd'hui et nous faire avancer dans le changement. Alors, on sait que changer en Église, des fois, c'est un petit peu difficile. Donc, le titre, pour ceux que ça intéresse, c'est « Missionnaire malgré lui, une lecture du livre de Jonas écrit par René Mailloux chez Médiapol ». Le deuxième livre que je voulais vous présenter se trouve chez Novalis. Lui aussi a été écrit assez récemment par David Finn, qui porte sur le titre de Jonas, le prophète de l'environnement. Jonas, prophète de l'environnement. Alors, l'auteur a déjà écrit un autre livre qui s'appelait « Les pages vertes de la Bible ». Alors, c'est quelque chose qu'il aime beaucoup, relire la Bible et s'inspirer de ces textes-là pour trouver des pratiques environnementales pour aujourd'hui. On voit qu'il y a un souci pastoral chez le pasteur. Alors, c'est un pasteur qui écrit, qui veut nous éveiller les consciences des lecteurs pour qu'ils deviennent à leur tour prophètes de l'environnement, comme pour lui, Jonas est prophète de l'environnement. Le meilleur élément de ce livre-là, c'est l'originalité de sa perspective, de prendre des textes bibliques et de les interpréter d'une façon différente. En regardant un monde biblique avec la question de l'importance de l'écologie, bien, la discussion autour du livre de Jonas va dans des sens nouveaux qu'on n'est pas habitué de lire et d'entendre. Pourtant, j'avoue que j'ai pas été tout à fait convaincu que Jonas est un prophète de l'environnement. Parce que, bon, ce qui va avancer dans le livre, c'est que il y a plusieurs éléments de la nature qui sont évoqués dans le livre de Jonas. La tempête, le désert, un gros poisson, une plante, bon, etc. Mais ces éléments-là font pas de Jonas, en tout cas d'après moi, un prophète de l'environnement. Parce que, d'une part, Jonas n'a aucune parole ou action qui vont spécifiquement dans le sens de la protection environnementale. Je pense que le vrai prophète de l'environnement, c'est l'auteur qui a un message qui est quand même fort important pour notre temps, mais qui les liens avec le texte biblique semblent un peu forcés pour moi, en tout cas. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'auteur, c'est un pasteur qui veut donner le goût de comprendre un texte biblique, de l'actualiser, de l'interpréter pour aujourd'hui. Il fait beaucoup de liens avec la compréhension historique aussi du livre de Jonas. Alors, on comprend un petit peu mieux toute l'histoire de la rédaction du livre. Alors, si ça vous intéresse, je vous redonne le titre. C'est chez Novalis, Jonas, le prophète de l'environnement, par David Finn. Alors, avant de plonger dans notre récit de la semaine, je vous rappelle que vous pouvez toujours nous rejoindre. Notre courriel est assez simple, auditoire@radiovm.com, auditoire@radiovm.com. N'hésitez pas à nous écrire parce que ça nous fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles et aussi de répondre à vos questions qui portent sur la Bible. Alors, un peu de musique et on regarde ensemble l'histoire de Jonas. Si on avait à donner un titre pour notre récit d'aujourd'hui, ça pourrait être « Jonas, le prophète suicidaire ». Le livre de Jonas ne ressemble à aucun autre livre prophétique. Pourtant, on a l'habitude de le mettre dans les livres prophétiques. Et il est très différent des autres parce qu'au lieu de livrer des messages de Dieu comme les autres prophètes, ben, le livre de Jonas, c'est en quelque sorte, c'est une courte histoire, presque un tout petit roman. Cette histoire est remplie d'images, d'interventions extraordinaires, mais on va s'arrêter surtout aux réactions de Jonas. Je vous lis le début du livre. Ça commence comme ça, au chapitre 1, verset 1 du livre de Jonas. « La parole du Seigneur s'adressa à Jonas, fils d'Amittai. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et profère contre elle un oracle, parce que la méchanceté de ses habitants est montée jusqu'à moi. » Jonas se leva, mais pour fuir à Tarsis, hors de la présence du Seigneur. Il descendit à Jaffa, y trouva un navire construit pour aller à Tarsis. » Alors ça, c'était le début du livre de Jonas. La ville de Tarsis semble impossible à localiser aujourd'hui. On n'a aucune idée c'est où. Mais pour les Hébreux, c'est le bout du monde. Jonas fuit pour ne pas aller prophétiser à Ninive. Il n'a aucune intention de suivre ce que Dieu veut qu'il accomplisse. Il prend un bateau et s'en va dans la direction opposée. Et sur le bateau, il doit faire face à une violente tempête. L'équipage va croire que l'origine de la tempête se trouve dans la fuite de Jonas. Hein, on demande, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose au Seigneur pour que ça nous arrive, cette tempête-là? Et Jonas va leur dire, hissez-moi, lancez-moi à la mer pour qu'elle cesse d'être contre vous. Je sais bien que c'est à cause de moi que cette grande tempête est contre vous. Ça, c'est au chapitre 1, verset 12. Alors, c'est ça qu'ils vont faire. Ils vont prendre Jonas et Jonas va plonger vers la mort. L'équipage va le lancer à la mer. C'est là qu'intervient le merveilleux pour une première fois. Il y a un élément assez extraordinaire qui va arriver. Je vous lis Jonas, chapitre 2, les versets 1, 2 et 12. « Alors le Seigneur dépêcha un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas demeura dans les entrailles du poisson 3 jours et 3 nuits. Des entrailles du poisson, il pria le Seigneur son Dieu. Alors le Seigneur commanda au poisson, et aussitôt le poisson vomit Jonas sur la terre ferme. » Avec ce grand poisson, l'histoire quitte le domaine des possibilités naturelles. On est rendu ailleurs. Et après avoir accordé son assistance à Jonas, le Seigneur lui demande une deuxième fois d'aller à Ninive. Puis là, il n'y a plus le choix, il va accepter. On va écouter cette histoire au chapitre 3 du livre de Jonas, les versets 4 à 10.
Jonas avait à peine marché une journée en proférant cet oracle. Encore 40 jours et Ninive sera mise sans dessus dessous, que déjà ses habitants croyaient en Dieu. Ils proclamèrent un jeûne et se revêtirent de sacs, des grands jusqu'aux petits. La nouvelle parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, fit glisser sa robe royale, se couvrit d'un sac, s'assit sur de la cendre, proclama l'état d'alerte et fit annoncer dans Ninive, par décret du roi et de son gouvernement, interdiction est faite aux hommes et aux bêtes, aux gros et aux petits bétail, de goûter à quoi que ce soit. Interdiction est faite de paître et interdiction est faite de boire de l'eau. Hommes et bêtes se couvriront de sacs et ils invoqueront Dieu avec force. Chacun se convertira de son mauvais chemin et de la violence qui reste attachée à ses mains. Qui sait, peut-être Dieu se ravisera-t-il, reviendra-t-il sur sa décision et retirera-t-il sa menace? Ainsi, nous ne périrons pas. Dieu vit leur réaction. Ils revenaient de leur mauvais chemin. Aussi revint-il sur sa décision de leur faire le mal qu'il avait annoncé. Il ne le fit pas.
La proclamation de Jonas a particulièrement été efficace, ça a marché. Tous les habitants de la ville reviennent dans le droit chemin et Dieu finit par décider de ne pas les détruire. On pourrait croire que Jonas se réjouirait de l'efficacité de son travail, ça a bien été, mais non. Voici la partie la moins connue de l'histoire de Jonas. Qu'est-ce qui arrive après, quand Jonas apprend que finalement la ville s'est convertie et que le Seigneur ne la détruira pas? On écoute ça, c'est Jonas, chapitre 4, les versets 1 à 11.
Jonas le prit mal, très mal, et il se fâcha. Il pria le Seigneur et dit, « Ah Seigneur, n'est-ce pas précisément ce que je me disais quand je vivais sur mon terroir? Voilà pourquoi je m'étais empressé de fuir à Tarsis. Je savais bien que tu es un Dieu bon et miséricordieux, lent à la colère et plein de bienveillance, et qui revient sur sa décision de faire du mal. Maintenant, Seigneur, je t'en prie, retire-moi la vie. Mieux vaut pour moi mourir que vivre. As-tu raison de te fâcher? Lui dit le Seigneur. Jonas sortit et s'installa à l'est de la ville. Là, il se construisit une hutte et s'assit dessous, à l'ombre, en attendant de voir ce qui se passait dans la ville. Alors le Seigneur Dieu dépêcha une plante qui grandit au-dessus de Jonas, de sorte qu'il y avait de l'ombre sur sa tête pour le tirer de sa mauvaise passe. Cette plante causa une grande joie à Jonas. Le lendemain, à l'aurore, Dieu dépêcha un ver qui attaqua la plante. Elle creva. Puis, quand le soleil se mit à briller, Dieu dépêcha un vent d'est cinglant et le soleil tapa sur la tête de Jonas. Prêt à s'évanouir, Jonas demandait à mourir. Il disait, « Mieux vaut pour moi mourir que vivre. » Alors Dieu lui dit, « As-tu raison de te fâcher à cause de cette plante? » Jonas lui répondit, « Oui, j'ai raison de me fâcher à mort. » Le Seigneur lui dit, « Toi, tu as pitié de cette plante pour laquelle tu n'as pas peiné et que tu n'as pas fait croître. Fille d'une nuit, elle a disparu, âgée d'une nuit. Et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville, où il y a plus de 120 000 êtres humains qui ne savent distinguer leur droite de leur gauche et des bêtes sans nombre.
Je vous disais en début de parcours que Jonas était un prophète suicidaire. On l'a vu au début du récit, quand il va sauter à la mer, Jonas montre qu'il est prêt à mourir. Ensuite, à deux reprises, il va exprimer clairement son désir de mourir, d'abord en réaction au pardon du Seigneur qui a épargné la ville, puis en réaction à la mort de la plante qui lui donnait de l'ombre au milieu du désert. Alors, vous savez, le livre de Jonas, c'est très court, hein? C'est 4 chapitres. D'habitude, ça tient sur 2 ou 3 pages dans la Bible. Et dans ces 4 chapitres-là, on a 3 fois où Jonas demande de mourir. On se rend compte que c'est un prophète qui semble avoir des problèmes avec les idées suicidaires. D'ailleurs, on avait parlé dans une émission il y a très longtemps de Moïse qui lui aussi avait eu un moment de dépression où il avait demandé au Seigneur de mourir. Mais c'est quand même assez rare, ça. Il n'y a pas vraiment d'autres personnages bibliques qui ont connu un tel désespoir. Alors, dans cette discussion avec Jonas, Dieu va mettre en doute le bien fondé du désespoir de son prophète. Il va questionner ça, dire « Voyons donc, comment ça se fait? Est-ce que tu as vraiment raison d'être si désespéré que ça? » Puis d'ailleurs, le lecteur, comme moi, quand on lit ce texte-là, on est du côté de Dieu, on se demande « Voyons donc, qu'est-ce qui se prend à Jonas? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de désespoir? » Alors, on est d'accord avec Dieu qui intervient de cette façon-là. Quand il explique pourquoi il a épargné la population de Ninive, quand Dieu explique ça, on voit se dessiner une image de Dieu qui est très intéressante. Un Dieu qui est bon, miséricordieux, lent à la colère, plein de bienveillance. Jonas lui-même va dire tout ça à propos de Dieu. Alors, c'est comme une belle image pour Dieu. Mais en plus, c'est un Dieu qui se soucie des autres nations. Il n'y a pas de Juifs à Ninive. Et pourtant, Dieu envoie un prophète pour presser les habitants de cette ville de non-Juifs-là d'arrêter de faire le mal. Et lorsqu'ils se repentent, ben Dieu a pitié d'eux. Alors, c'est un Dieu qui s'occupe même des peuples, même des peuples qui ne sont pas le sien, alors que le reste de la Bible montre un Dieu qui est très centré sur le peuple juif. Cet extrait-là nous montre qu'il est aussi intéressé aux autres. On peut comparer cette histoire-là à une autre. Moi, quand j'entends parler de cette histoire de destruction de ville qui n'a pas lieu finalement, ça me fait penser à Sodome et Gomorre, où finalement, Dieu va anéantir cette ville-là, une ville étrangère qui refuse de se détourner du péché. L'attitude des habitants de Ninive se révèle tout à fait contraire à celle de Sodome. À Ninive, ils acceptent de changer, alors qu'à Sodome, on s'endurcit dans notre péché. C'est pourquoi la ville est détruite alors que Ninive est sauvée.
Thank you.
Vous êtes à l'écoute des récits insolites de la Bible avec Sébastien Daune. Nous venons de raconter l'histoire de Jonas. Vous savez, c'est un des plus courts livres bibliques. Comme je disais, ça tient sur à peu près 2 ou 3 pages de votre édition de la Bible. Pourtant, ce petit texte-là est très intéressant, puisque d'une part, il nous montre comment Dieu se préoccupe d'une ville qui n'est pas juive. Alors, ça nous donne une impression que le salut de Dieu est universel pour tout le monde. Il y a un chiffre dans ce texte-là qu'on n'a pas abordé encore. Il y a une précision qui dit qu'il y a 120 000 habitants qui sont sauvés dans la ville de Ninive. Et ces 120 000 habitants-là, pour moi, c'est un nombre symbolique, beaucoup plus que mathématique, là. Il y a une portée universelle et renvoie à tous les humains que Dieu peut sauver. Alors, 120 000, c'est beaucoup de monde. Le lecteur, surtout pour cette époque-là, le lecteur et les lectrices de ce récit sont invités à se compter dans ce groupe de personnes sauvées. Nous aussi, nous pouvons peut-être être sauvés. Alors que certains groupes religieux, comme les Témoins de Jéhovah, pour ne pas les nommer, pensent qu'il y a un nombre fixe de personnes qui sont élues. On rentre pas là-dedans, c'est assez compliqué avec l'Apocalypse. Eux, c'est 144 000. Mais les chiffres dans la Bible ont des portées symboliques. Et c'est ça la signification du 120 000 habitants, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. D'autre part, on a aussi mis l'accent sur les pensées suicidaires de Jonas et surtout sur l'action de Dieu qui met en doute le bien fondé du désespoir de son prophète. L'histoire dit pas si Jonas a retrouvé goût à la vie après l'intervention du Seigneur. Mais ce qui nous intéresse, c'est la pédagogie de Dieu qui, à première vue, nous semble un peu cruelle. Tuer une plante et laisser Jonas souffrir sous le soleil, qu'est-ce que ça peut faire, ça? Mais son objectif, c'est de remettre la colère et les idées suicidaires de Jonas en question. De dire, voyons donc, qu'est-ce que c'est que c'est ça, cette façon de réagir-là? Et ça nous paraît plus sensé, par contre. Il invite son prophète à changer de perspective, à voir autrement que sa propre situation. Jonas semble très centré sur lui-même et son point de vue négatif. Alors Dieu veut l'aider à changer de perspective. La réaction de colère, le découragement de Jonas, ben, il illustre bien comment une personne peut avoir de la difficulté à mettre en perspective ce qu'elle vit. Comme le dit Jésus, c'est plus facile de voir la poussière dans l'œil de quelqu'un d'autre que voir la poutre qui est dans notre propre œil. Mais dans le récit, c'est Dieu qui va offrir à Jonas un point de vue complètement différent. Dans notre vie, lorsqu'on est désespéré ou en colère comme Jonas, ça nous arrive, en tout cas moi ça m'arrive, peut-être qu'il faut essayer de faire preuve d'humilité puis d'accepter qu'une autre personne nous offre un autre regard sur notre situation, d'essayer de voir les choses autrement. Puis peut-être qu'inversement, on peut nous aussi nous inspirer de l'attitude de Dieu dans notre façon d'aider quelqu'un à voir différemment les choses quand c'est quelqu'un d'autre qui éprouve des difficultés. L'essayer de l'aider à voir les choses autrement. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de faire dans ma propre pratique pastorale. Les auditeurs habitués le savent, je travaille dans une école secondaire et chaque année, j'ai le privilège d'être une des personnes ressources pour les élèves qui ont des idées suicidaires. Et malheureusement, il y en a beaucoup plus qu'on pense. Puis, dans une première rencontre avec eux, je sens souvent que l'élève est coincé dans un tourbillon qui réussit même pas à identifier correctement son problème. Il y en a plusieurs, puis ça se mêle tout ensemble. Puis, en écoutant, en dialoguant avec lui, ben, on parvient à démêler tout ça pour trouver ensemble des solutions. Collés à leurs difficultés, mes jeunes manquent de perspective et ont parfois l'impression que leur vie est finie, qu'il n'y a plus rien à faire. Puis pourtant, ils ont tout un avenir qui est riche d'expériences qui les attend. Ils n'ont que 15, 16, 17 ans. Il y a toutes sortes de choses après, mais ils sont tellement pris dans la crise qu'ils ne voient rien d'autre. Un peu comme Jonas dans notre histoire. Ils ont besoin d'aide pour voir plus loin et continuer à s'épanouir. C'est déjà le moment de se dire à la prochaine. J'espère que le récit du livre de Jonas vous a donné matière à réflexion. C'est plus qu'une histoire de naufrage et de baleine. En tout cas, j'espère que vous avez retenu au moins ça. Vous pouvez lire les récits et les réflexions abordées dans notre émission dans un livre intitulé « Mais d'où vient la femme de Caïn? Les récits insolites de la Bible » que j'ai écrit aux éditions Novalis et Mediapol. Si vous avez des réactions, des commentaires, des questions, n'hésitez pas, écrivez-nous. On prend toujours un temps au début de chaque émission pour justement répondre à ces réactions-là. Par exemple, vous pouvez me dire ce que vous pensez de l'histoire de Jonas et de la façon dont on l'a présentée, et peut-être même votre façon d'interpréter la crise de Jonas. Alors, écrivez-nous à auditoire@radiovm.com, auditoire@radiovm.com. La prochaine fois, on va commencer à parler d'un livre, du livre de Job. C'est un chef-d'œuvre de la littérature juive, et ce chef-d'œuvre-là nous pose la question de la souffrance injuste. Comment ça se fait qu'il y a de la souffrance dans notre vie, puis que c'est injuste? Alors, on va revenir à cette question-là la semaine prochaine grâce à Job. Je termine en remerciant Marie Laferrière pour ses lectures bibliques. Merci à Alain Primo, à la technique, et surtout merci à chacun d'entre vous pour la qualité de votre écoute. C'était Sébastien Daune. À bientôt.